D'abord, je crois que quand on parle de persécution, il faut nuancer un petit peu. Dans ce sens que l'Église du IIe siècle n'a pas été une Église où il n'y a eu que des martyrs. Il ne faudrait pas penser que tous les chrétiens du IIe siècle mouraient martyrs. Et s'il y avait des périodes où la persécution était intense, il y avait des périodes d'accalmie où les chrétiens pouvaient vivre une vie à peu près normale. Les persécutions étaient plutôt des espèces de crises qui surgissaient soit sur le plan local, parce que sur le plan local, il y avait un fonctionnaire particulièrement zélé et qui était contre les chrétiens et qui soudain se mettait à les persécuter, soit parce qu'il y avait une populace qui était quelque peu excitée contre les chrétiens, comme à Lyon en 1177, dans l'exemple de persécution qu'on verra tout à l'heure, soit parce qu'il y avait soudain un décret impérial qui, pour des raisons de politique intérieure ou tout simplement pour des raisons de prestige personnel, faisait que l'empereur ordonnait une persécution généralisée. Mais en dehors de ces périodes qui, heureusement pour les chrétiens du IIe siècle, étaient tout de même relativement brèves, la plupart du temps, quand même, la vie pouvait être à peu près normale. Mais il n'en demeure pas moins vrai que, même en dehors de ces périodes de persécution intense, le christianisme au IIe siècle était tout de même quelque chose qui était très très mal vu et qui rencontrait une opposition quasi généralisée. C'était en fait dû au fait, si vous voulez, qu'il y avait opposition radicale entre deux mondes, deux modes de pensée qui étaient absolument inconciliables. D'une part, la philosophie païenne, et d'autre part, eh bien, forcément, l'Évangile. Et il y avait une double opposition, de la part, d'une part, des élites, et on sait qu'il y avait un certain nombre de philosophes, en particulier, qui s'en sont pris avec violence au christianisme. D'où justement le travail des apologètes dont nous parlions ensemble la dernière fois, sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir. On sait que même des gens aussi tolérants et modérés que l'étaient par exemple un certain nombre d'historiens latins bien connus, tels Tacite, Pline, etc., ont parlé des chrétiens dans des termes très, très négatifs, même si par ailleurs ils reconnaissaient que sur le plan de la conduite, sur le plan des mœurs, sur le plan du comportement, c'était des gens qui étaient exemplaires. Mais il y avait un préjugé qui était ancré dans l'âme des gens de la société romaine du IIe siècle, qui faisait que, a priori, le christianisme était rejeté. Et c'est pour ça, finalement, que l'étude de l'Église du IIe siècle est quelque chose pour nous d'absolument passionnant. Parce que, finalement, on se retrouve pratiquement aujourd'hui, dans bien des domaines en tout cas, dans un contexte qui n'est pas sans rappeler la situation qui était celle des chrétiens du IIe siècle. Une opposition généralisée qui était due à des préjugés. Des préjugés que rien ne venait justifier, parce que précisément, lorsque par exemple Pline demande à l'empereur Trajan quelle attitude il doit adopter au sujet des chrétiens, les gens qui sont traduits devant lui en tant que gouverneur romain, donc sous le crime de christianisme, il dit que c'est une superstition des plus viles et des plus basses, mais il ne justifie pas cela, n'est-ce pas? Au contraire, il dit que ce sont des gens qui sont doux, qui ne se révoltent pas, qui sont soumis aux autorités, etc. Mais ça n'empêche pas de conclure que c'est une des pires superstitions qui soit. Pourquoi ? C'est pas rationnel, c'est passionnel. On dirait, bien entendu, dans une perspective biblique, qu'il y a là une action de Satan, une action de l'ennemi, bien sûr, pour entraver l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, on voit comment il vient justement dans l'âme humaine des réactions qui sont absolument... qu'il n'est pas possible de raisonner. Et parfois les chrétiens, à cette époque-là, ont fait l'erreur de penser qu'il leur suffirait d'expliquer. Et précisément, les apologètes, par exemple Justin Martyr, ont dit « Mais non, nous sommes des gens qui sommes en tout point semblables à vous, nous participons à vos travaux, nous participons à votre société, etc. Nous combattons dans vos armées, etc. Nous sommes... Vous n'avez autrement dit aucune raison de nous en vouloir, aucune raison de nous persécuter. Nous sommes loyaux vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de l'empereur, etc. Vous n'avez aucune raison de nous persécuter. Et on voit précisément que on avait beau expliquer, et les chrétiens avaient beau expliquer, l'opposition était là. Elle était là aussi de la part de la populace, on dirait, du petit peuple, qui lui aussi réagissait dans cette affaire d'une manière absolument passionnelle. Parce que c'était différent, parce que c'était quelque chose de nouveau, parce que, dans le fond, ils ne se retrouvaient pas dans leur catégorie mentale à eux. N'est-ce pas ? Finalement, c'est un petit peu un phénomène d'intolérance, comme on en trouve à d'autres époques, et que Montesquieu a fort bien illustré lorsqu'il disait, il plaçait dans la bouche de son... dans les lettres persanes, n'est-ce pas ? Cette question faussement naïve, comment peut-on être persan ? C'est finalement ça. Comment peut-on être différent de ce que nous sommes, nous ? Comment, dans la société du IIe siècle, peut-on ne pas adorer des idoles ? Alors, puisqu'ils refusent d'adorer des idoles, eh bien, ils n'ont pas le droit de citer. Ils n'ont pas le droit d'exister, ces gens-là. Tout simplement parce qu'ils sont différents. C'était le commencement et la fin de leur philosophie à ces gens-là. Et ce qui est étonnant, c'est de trouver que chez les philosophes, les gens qui auraient dû dépasser ce réflexe primaire, ils avaient en fin de compte la même réaction et la même attitude. Ce qui montre bien que le fait d'être cultivé et d'avoir affaire à des gens cultivés ne nous met pas à l'abri obligatoirement de l'intolérance. Et que chez parfois les gens les plus cultivés, c'est chez eux qu'on trouve l'intolérance la plus grande. Alors que quand on souligne précisément ce fait, ils vont se récrier en disant que non, ils ne sont pas du tout intolérants, bien au contraire, mais dans les faits, ils se comportent et ils se conduisent d'une manière intolérante, partageant tout simplement les préjugés qui sont ceux de ceux que l'on pourrait considérer comme des gens sans culture et par conséquent réagissant d'une manière primaire. Maintenant, pour nourrir tout de même cette polémique antichrétienne, il y avait un certain nombre de calomnies qui circulaient sur le compte des chrétiens pendant le IIe siècle, dès la fin du Ier siècle, et pendant toute la durée du IIe siècle, IIIe siècle aussi finalement, pendant toute la période où l'Église a été persécutée. D'une part, c'est que les chrétiens étaient des gens qui avaient la haine du peuple, parce qu'ils ne participaient pas à tout ce qui se faisait dans la cité. Ils ne participaient pas au spectacle licencieux. Ça, c'était la grande accusation. Et c'est là qu'on peut faire un parallèle aussi avec ce qui se passe de nos jours. L'esprit d'intolérance que nous sentons monter autour de nous vis-à-vis des chrétiens qui veulent rester fidèles et qui veulent se tenir à l'écart de tout ce débordement de pornographie, de spectacle, etc. que l'on voit aujourd'hui. Finalement, c'est exactement la même chose du IIe siècle. Bon, il n'y avait pas de télévision au IIe siècle, mais il y avait les spectacles dans l'arène, etc., qui étaient exactement du même cru. La violence, la sexualité, tout ça, ça y était. Exactement comme de nos jours. Or, les chrétiens se tenaient loin, bien entendu, de ces choses-là. Ils se tenaient loin également des compétitions sportives, bien qu'il y avait des discussions là-dessus, par exemple à l'école d'Alexandrie. Mais d'une manière générale, ils se tenaient loin des compétitions sportives, non pas qu'ils étaient contre le sport en soi, mais parce que le sport était associé souvent avec, d'une part, des cultes païens, c'était des jeux qui étaient organisés sous le patronage de tel ou tel dieu, de telle ou telle déesse, d'une part, et vous savez, dans l'Antiquité, qui impliquait la nudité totale de ceux qui participaient à ces jeux. Donc les chrétiens refusaient aussi le sport pour ces raisons-là. Ils refusaient de participer à un certain nombre de professions, même jusque parfois allant jusqu'à refuser de participer à la fonction publique au moment en particulier où l'Empire a été divinisé le plus. Et pour cette raison, on accusait les chrétiens à cette époque-là d'être des gens qui ne se réjouissaient jamais, quoi, des gens austères, des gens qui ne participait pas à ce qui était normal, ce qui était naturel, cette exubérance de la fête, n'est-ce pas, du débordement qui était quelque chose considéré comme finalement ce qui faisait le piment de la vie pour les gens du IIe siècle, et finalement pour les gens du XXe siècle, païens, c'est à peu près la même chose. Alors à cause de cela, on les accusait d'être des ennemis du peuple. Et puis il y avait une autre accusation aussi qui était la conséquence de, celle-ci, c'était des ennemis du genre humain, carrément. Des ennemis de tous les hommes. C'était des gens qui, à cause de leur rejet, leur refus d'un certain nombre de choses, ce qui apparaissait le plus nettement pour la société romaine du IIe siècle, c'était cette attitude de refus des chrétiens face à un certain nombre de choses. Alors, finalement, ce refus était considéré comme une remise en question de cette société elle-même. Et par conséquent, on considérait que les chrétiens, à cause de cette remise en question de la société de leur temps, étaient en fait des ennemis du genre humain. On les accusait également, pour nourrir la polémique, d'avoir tout un ensemble de rites et de pratiques qui étaient tenues secrètes. Ce n'était pas totalement faux. Dans la mesure où, précisément, les chrétiens évitaient de faire d'attirer l'attention sur eux, notamment quand ils avaient des cultes ou des réunions. Il y avait une espèce de semi-clandestinité qui devenait carrément clandestinité, bien entendu, dans les périodes de persécution. Et il suffit d'évoquer, par exemple, l'église des catacombes. Donc, on savait que les chrétiens se rassemblaient d'une manière un peu cachée, mystérieuse, et finalement, ça piquait la curiosité des non-chrétiens, des païens. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire dans ces réunions-là pour qu'ils prennent tant de soin à cacher ce qu'ils font? Donc, c'est qu'ils doivent faire des choses qui ne sont pas avouables. Et alors, il y avait toutes sortes de calomnies qui couraient sur le compte des chrétiens, qu'ils se livraient à toutes sortes d'orgies, et surtout, enfin, qu'ils allaient jusqu'à... on trouvait les accusations qu'il y avait contre les juifs, ils adoraient une tête d'âne. Je ne sais pas pourquoi, d'où est venue cette accusation. Pourquoi ils adoraient une tête d'âne? Ça courait, c'était brûlé comme ça, stupide. Et puis alors surtout, qu'il y avait on avait réussi à savoir qu'ils participaient à la scène, c'est-à-dire qu'ils prenaient le pain et le vin, qu'ils représentaient le sang du Seigneur. Par conséquent, on les accusait de dégorger des enfants, de kidnapper des enfants et puis de les égorger pour boire leur sang. Ça, c'est l'accusation qu'on retrouvera dans l'Europe du Moyen-Âge et même jusqu'à une époque relativement récente en Russie pour ce qui concerne les Juifs. Mais au départ, ça a été, c'est une accusation qui a été lancée contre des chrétiens. Et puis alors, il y avait aussi un autre point qui faisait que les chrétiens étaient persécutés, c'était le fait qu'ils prétendaient être les seuls à avoir la vraie foi. Et là, on trouve quelque chose de tout à fait intéressant. Parce que la société romaine était, dans son essence, extrêmement tolérante vis-à-vis des cultes, de tous les cultes. Pratiquement tous les cultes dans l'Empire romain avaient le droit de citer. Tout nouveau culte, finalement, trouvait plus ou moins la possibilité de s'insérer. C'est ainsi qu'il y avait les cultes d'Isis, originaire d'Égypte. Il y avait les cultes de Mithra, il y avait le culte de Dionysos, il y avait le culte d'Esculape, il y avait... Bon, tous ces cultes à mystère, finalement, qui, eux, étaient encore... Et qui, eux, auraient pu, d'une certaine manière, répondre à ces calomnies que l'on appliquait aux chrétiens. Mais ces cultes-là étaient tolérés. Pourquoi? Parce qu'ils n'excluaient pas les autres. Par exemple, les adorateurs de Mithra n'allaient pas dire aux adorateurs d'Esculape « Votre dieu, ça n'existe pas, votre culte est totalement erroné, etc. C'est une abomination. » Les chrétiens le faisaient. Les chrétiens disaient, il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Et il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus-Christ. Et tous ceux qui se disent Dieu et Seigneur ne sont que des idoles, que des vanités. Alors on accusait les chrétiens d'intolérance. Et ils ont été persécutés au nom de la tolérance, parce qu'on exigeait d'eux qu'ils aient vis-à-vis des autres cultes la tolérance qu'on était prêt à leur accorder, du moment qu'eux aussi reconnaîtraient la valeur des autres cultes. Alors voyez-vous, on retrouve là dans notre société moderne des traits communs. C'est pour ça que finalement, là, c'est une période extrêmement intéressante à étudier. Finalement, qu'on reconnaisse aujourd'hui la validité de ce qui est anti-biblique, alors à ce moment-là, on aura droit d'exister en cité. Et puis, il y avait une autre accusation aussi qui découlait de celle-là. C'est que les chrétiens étaient des athées. On pourrait dire, mais c'est étonnant. Or, l'athéisme, dans le droit romain, était considéré comme un crime extrêmement grave. C'était faire preuve d'impiété, de non-respect pour les puissances supérieures, pour lesquelles les Romains avaient une crainte beaucoup plus superstitieuse qu'autre chose, et faire preuve d'impiété vis-à-vis des divinités, c'était, en quelque sorte, provoquer leur colère et leur courroux, et risquer de voir ce courroux s'abattre sur la société tout entière. Les chrétiens qui n'hésitaient pas, qui n'avaient aucun respect pour les divinités, et des divinités qui étaient visibles, qui avaient leur statut. Or, les chrétiens disaient qu'ils adoraient un Dieu, certes, mais un Dieu invisible, un Dieu qu'on n'avait pas le droit de représenter, un Dieu qui n'avait ni statut, ni image, ni représentation. Donc un Dieu pour les Romains qui n'existait pas. Si je ne peux pas représenter mon Dieu par une statue, par une image, etc., c'est que ce Dieu n'existe pas. Donc les chrétiens étaient des athées pour les Romains. Donc c'était des gens qui étaient coupables d'impiété. Et par exemple, lorsque Pline s'en prend à eux, dans sa lettre à Trajan, c'est essentiellement au nom de ce crime d'athéisme qu'il les persécute et qu'il les poursuit. Et c'est alors donc que les persécutions ont pu avoir lieu à partir de ces accusations-là, à partir d'un certain nombre de manifestations d'hostilité qui éclataient soit d'une manière organisée, soit parfois d'une manière spontanée. Il y avait également une autre accusation qu'on leur reprochait, c'était qu'ils n'étaient pas des gens sociables. Ce n'étaient pas des gens avec lesquels les rapports étaient faciles. Ils ne se liaient pas facilement avec les gens qui n'étaient pas des chrétiens. Alors, c'était des gens qui... Puis alors, ensuite, il y avait le prosélytisme. Non seulement ils affirmaient que leur Dieu était le seul, mais en plus de ça, ils essayaient d'amener les autres à partager leur foi. Ils essayaient de les détourner du culte de leur Dieu à eux pour les amener au culte du Seigneur. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui a toujours été mal vu dans toutes les sociétés. Et souvent, dans toutes les sociétés, le christianisme a eu des difficultés à partir du moment où il a essayé d'évangéliser. Et en fin de compte, on les accusait d'être des anarchistes, donc agitateurs politiques. Voilà, si vous voulez, en gros, le catalogue des persécutions. Comme je disais tout à l'heure, la persécution n'a pas été quelque chose, malgré tout, de permanent. Il y avait des longues périodes de tolérance et des longues périodes de tranquillité. En fait, entre la première persécution de Néron en 63 jusqu'à la conversion de Constantin, où officiellement les persécutions ont pris fin, l'histoire ecclésiastique traditionnelle distingue 10 persécutions, 10 grandes périodes de persécution. Je vous les cite, si vous le voulez. La première, évidemment, commence avec Néron, 54 à 68. La seconde, donc, à la fin du siècle, Néron, 54 à 68, avec l'apogée en 63, probablement du martyr de Pierre et Paul. Et puis ensuite, la deuxième, avec Domitien, à la fin du siècle, 86 à 96, qui alors elle a été une persécution terrible au cours de laquelle l'apôtre Jean aurait été exilé à Patmos, et c'est dans ce contexte qu'aurait été écrit l'Apocalypse en particulier. L'Apocalypse serait le reflet de cette persécution de Domitien qui apparaît aux yeux des chrétiens comme un nouveau Néron, en quelque sorte, une espèce de manifestation de l'Antichrist. Domitien qui précisément avait persécuté les chrétiens parce qu'il se voulait lui aussi de nature divine. C'était un homme qui était féru d'hellénisme et qui cherchait à finalement s'égaler aux dieux, et c'est au nom de cette de cette divinité qu'il a attaqué les chrétiens. Ensuite, on trouve Trajan, la persécution de Trajan. Vous remarquerez d'ailleurs que ça correspond aussi assez facilement avec les persécutions qui se sont manifestées à l'endroit du peuple juif. Il faut dire que les trois premières persécutions en particulier, les Romains ne faisaient pas encore la différence entre juifs et chrétiens. Et les accusations dont je parlais tout à l'heure, que l'on portait contre les chrétiens, on les retrouve aussi à la même époque contre les juifs. Exactement les mêmes persécutions, en fin de compte. Les mêmes accusations, les mêmes calomnies. Et chrétiens et juifs ont été persécutés, si je vous dis, dans la même fournée, à cette époque-là. Trajan, donc, Trajan 98 à 117, c'est pratiquement l'époque de la deuxième révolte contre Rome, et les persécutions anti-juives qui ont suivi. Là aussi, c'était, finalement, on retrouve les mêmes accusations, mais je crois que c'était surtout l'agitation en Judée qui a amené Trajan à réagir de cette manière-là, contre les chrétiens, dans lesquels il voyait, finalement, les alliés potentiels des juifs. On trouve ensuite la persécution de Marc Aurèle, 161 à 180. Marc Aurèle, Marcus Aurelius, en latin. Alors c'est tout à fait étonnant parce que ça, nous sommes à l'époque des empereurs qui ont été parmi les plus éclairés de Rome, les plus tolérants. Ceux qui sont considérés, qui étaient des philosophes, qui étaient des sages. Marc Aurèle était un sage, il se piquait de philosophie. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Les dates, alors je reprends. Néron, 54-68. Domitien, 86-96. Trajan, 98-117. Marc Aurèle, 161-180. Donc Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui persécute les chrétiens. Ensuite, on trouve une très très grande persécution à la fin du siècle, avec Septime Sévère, 195 à 211. Oui, il était vraiment sévère celui-là. Septime Sévère, Septimus Severus. Ensuite, on trouve la persécution de Maximin, 235-238. Surtout au IIIe siècle, enfin, je vous fais la liste jusqu'au bout. Hein. Ensuite, une des plus terribles persécutions, peut-être la pire, c'est celle de Décius, 249-251. Décius, D-E-C-I-U-S. Ah oui, c'est la plus terrible. Là, vraiment, jusqu'alors, les martyrs étaient finalement peu nombreux en proportion par rapport au nombre des chrétiens. Ça, c'était un infime pourcentage du nombre des chrétiens. Avec des sus, alors là, ce sont des milliers de chrétiens qui sont systématiquement mis à mort. Là, des sus, c'est une des plus terribles persécutions. Valérien, ensuite, 253-260. Aurélien, 270-275. Et enfin, une des pires également, Dioclétien, c'était la dernière, mais celle-là elle a été particulièrement salée, 284-305. Il y avait, à côté de ces grandes persécutions, qui étaient des persécutions organisées, il y avait des persécutions qui éclataient plus ou moins spontanément, dans un endroit précis de l'Empire, et qui ne débordait pas cette région-là. Alors là, on en trouve pratiquement pendant toute cette période. Alors, si ce n'était pas un certain endroit, c'était un autre. Pratiquement, pendant toute cette période, il y avait des chrétiens persécutés. Pas partout en même temps, mais il y avait ça et là, pendant toute cette période, des chrétiens qui étaient martyrs pour leur foi. Alors, on ne va pas évoquer toutes les persécutions qui ont eu lieu pendant cette période, dans tous les coins de l'Empire, en dehors de ces 10 grandes persécutions qui sont les persécutions historiques et les persécutions qui étaient pratiquement généralisées. Mais on va juste prendre, si vous voulez, un exemple qui nous touche de près, puisque c'est la persécution de Lyon en 177 après Jésus-Christ, au cours de laquelle vont être martyrisés les fameux martyrs comme Plotin et Blandine en particulier. L'église de Lyon était une église, c'était pratiquement la première église qui avait été fondée en Gaule. Elle avait été fondée par des gens qui étaient venus d'Asie mineure. Lyon était une ville gallo-romaine qui avait, après la conquête romaine et à partir de cette période-là, en particulier pris une, au début du IIe siècle, un très très grand essor, notamment grâce à des colons qui étaient venus justement d'Asie mineure. Et il y avait à peu près un bon tiers de la population de la ville de Lyon qui était peuplée de gens qui étaient originaires d'Asie mineure. Et on pense que parmi ces colons qui sont venus d'Asie mineure au IIe siècle, il y avait un certain nombre de chrétiens. Si bien qu'il y a eu certainement très tôt, au moment de cette arrivée massive de colons venus d'Asie mineure, une petite église qui a grandi et qui s'est créée plus ou moins spontanément à partir de chrétiens de base, si j'ose dire, qui sont arrivés là. Et bientôt, ça a été l'église la plus importante de la Gaule, pratiquement la seule. Et puis, là, elle a commencé à avoir des ministères, elle a commencé à se structurer, et elle a commencé à être un centre de rayonnement dans le reste de la Gaule. Et on sait en particulier qu'à partir de Lyon, a été créée l'église de Vienne. Et en 177 en particulier, la persécution de Lyon a intéressé aussi des chrétiens qui se trouvaient à Vienne. Vienne, pardon, Autriche, bien sûr, Vienne, à quelques kilomètres de Lyon. Et d'autres églises, certainement, ont pu être créées dans les environs, certainement que peut-être même ils avaient pu rayonner jusqu'à Toulouse, enfin, surtout dans le Midi de la France actuelle, peut-être jusqu'à Marseille. Ils n'étaient pas venus par la mer, contrairement à la tradition qu'on trouve dans le, comment dirais-je, dans la légende française, la légende, vous savez, d'après la légende, l'évangélisation de la Gaule aurait été faite par les saintes Marie de la mer, Marie, ces saintes qui avaient débarqué à Aigues-Mortes, soi-disant, et que les gitans vont fêter tous les ans dans leur fameux grand pèlerinage annuel. Donc, l'évangélisation de la Gaule serait venue par la mer, par Marseille, etc. En fait, aujourd'hui, historiquement, il semble bien que même l'histoire de Sainte-Marie, la mer, n'en parlons pas, mais que l'évangile n'est pas venu par la mer, en ce qui concerne la Gaule, mais est venu par l'Italie, au-delà des Alpes, hein, au travers justement de ces gens qui sont venus d'Asie mineure. Et en particulier, il y avait des gens qui avaient été originaires de ces grandes, grandes églises d'Asie qui avaient connu le réveil au temps de l'apôtre Paul. Éphèse, Smyrne, toutes les églises qui sont évoquées dans l'Apocalypse en particulier. Et tant et si bien que finalement est arrivé sur place, enfin a été institué sur place un évêque, s'appelait Plotin, qui lui était originaire aussi de cette région, et qui va être une des principales victimes de la persécution de 177 notamment. Alors, pour le remplacer, après la persécution, les frères d'Asie mineure avec lesquels l'église de Lyon a gardé des liens pendant toute cette période, va envoyer un de leurs meilleurs, apôtres, c'est le nom qu'il faut employer, c'était un apôtre, Irénée. Irénée, qui était un disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Jean, qu'est-ce qui se passe ? Qui était lui-même disciple de Jean, l'apôtre qui avait eu la responsabilité des églises d'Asie après donc, la persécution de Néron en particulier, entre la persécution de Néron et la persécution de Domitien. Et c'est aussi ce qui explique le déclenchement de la persécution de Lyon en 177. La population donc, qui était originaire d'Asie mineure avait aussi gardé la religion d'Asie mineure, mis à part les quelques chrétiens qui étaient venus. En particulier, le culte de Cybèle. Cybèle, qui était la grande déesse vénérée dans ces régions-là, qui avait une fête, si je ne me trompe pas, c'était le 1er mars, et puis ensuite, il y avait une deuxième fête au début d'août. Et donc, au moment de la deuxième fête, c'était en fait une période qui allait de mars à août, où on célébrait les mystères de la déesse, etc. Et pendant cette période-là, évidemment, les chrétiens n'avaient pas pris part à ces fêtes-là. Et ça avait profondément indisposé les païens. Et le 1er août, donc au moment où la fête arrivait à son point culminant, alors ils se sont soulevés contre les chrétiens. Et ça a été le déclenchement de la persécution. Ils ont exigé les autorités civiles qu'elles arrêtent les chrétiens, qu'elles les contraignent de participer aux fêtes aux idolâtres, etc. Et le devant de refus des chrétiens, la persécution a commencé. Et alors, on a justement... On connaît très bien cette persécution parce qu'on a une lettre justement des chrétiens de Vienne et de Lyon qu'ils ont envoyé à leurs frères d'Asie après ce terrible événement, puisque précisément ils étaient en contact spirituel avec ces frères d'Asie, pour leur expliquer ce qui s'était passé et pour leur demander en quelque sorte du secours. L'essentiel de cette lettre, nous l'avons, et je vais vous lire donc cela, bien que j'ai eu pas la première partie, enfin ça fait. C'est une lettre qui a été conservée dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, deux siècles plus tard, qui a fait une histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à son temps, et qui est par conséquent pour nous une source très très intéressante d'information au point de vue historique de toute cette période-là. Alors voilà ce qu'ont écrit les survivants de la persécution de 177. Les serviteurs du Christ en séjour à Vienne et à Lyon, en Gaule, aux frères d'Asie et de Phrygie, qui ont la même foi et la même espérance que nous dans la rédemption, paix, grâce et gloire de la part de Dieu notre Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Donc un autre là s'est coupé, de Pergame, qui avait toujours été pour ceci une colonne et un appui, et enfin contre Blandine. En la personne de Blandine, le Christ montra ce qui apparaît aux yeux des hommes comme beauté, sans beauté simple et méprisable, que cela donc apparaît comme digne aux yeux de Dieu, d'une grande gloire à cause de l'amour qu'ils ont pour lui. Cet amour qui rencontre dans ce qu'on est capable de faire et ne se vante pas de ses apparences extérieures. Nous avions craint en effet, nous, sa maîtresse, laquelle était engagée dans les combats et au nombre des martyrs, que Blandine, dans cette lutte, ne soit pas capable, à cause de sa faiblesse physique, de faire avec assurance sa confession de foi. Et Blandine fut remplie d'une telle force qu'elle est faite, pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, la fête païenne, mais dans ce sens que pour eux, c'est quelque chose qui est vécu dans la présence du Seigneur. Pline jeune, lui, dans la lettre qu'il écrivait à Trajan et que j'évoquais tout à l'heure, qui était gouverneur de Bithynie, écrit que les chrétiens ont l'habitude de se rencontrer tous les jours. Donc là, nous sommes vraiment dans une vision communautaire. Nous savons que les chrétiens qui étaient aisés à cette époque-là avaient pour habitude de se faire construire dans leur maison une salle particulière, disons un petit oratoire, où ils avaient la possibilité de se retirer, comme Jésus l'avait dit, « Quand tu es seul, entre dans ta chambre, ferme ta porte et va prier ton père qui est dans le secret. » On a retrouvé dans les maisons des chrétiens, des oratoires de ce type. Les chrétiens priaient, ils priaient beaucoup. Et l'on sait, toujours par le même Pline, qui dit ceci, les chrétiens se rassemblent tous les jours avant le lever du soleil pour chanter des hymnes à la gloire du Seigneur, à la gloire de Jésus, comme s'il s'agissait d'un Dieu. Donc, ce qui nous prouve qu'il avait une vie communautaire, une vie de prière intense à ce moment-là. Et il ajoute également qu'après la prière terminée, ils prenaient ensemble un repas qui n'était pas un repas orgiaque, comme le disait la rumeur publique, calomnieuse, mais ils se contentaient de prendre les choses les plus simples. Les aliments les plus simples. Dans la Didaké, nous disons que les chrétiens priaient trois fois par jour, à la manière juive. Mais là, nous sommes encore dans un contexte assez juif, n'est-ce pas ? Plus, ils priaient aussi au moment des repas. Nous savons également, par les sources de cette époque-là, que les chrétiens aisés avaient pour habitude de... Bon, on prenait trois repas à ce moment-là, mais le plus important était le repas du soir. Et les chrétiens aisés avaient pris l'habitude d'inviter les membres de la communauté qui étaient les plus défavorisés pour manger à leur table. Donc là aussi, nous avons une espèce de vie communautaire. Il y a à la fois le partage spirituel, le partage du pain du ciel et le partage du pain de la terre. Et ça, c'était très très fort. On sait également, par d'autres sources, que les chrétiens aisés, qui avaient décidé d'avoir une table ouverte, en référaient en général à l'évêque. Et c'était l'évêque qui, connaissant donc la situation des membres de la communauté, prenait sur lui l'initiative de désigner à tel chrétien qui n'avait pas les moyens qui avaient été chrétienisés, disant ben, toi, tu vas manger chez un tel, tu vas manger chez un tel, etc. Comme on dit, les chrétienisés s'en remettaient à l'évêque pour décider pas, qui ils mangeraient, qui ils enverraient manger chez lui. Nous savons également qu'il y avait des problèmes pour ce qui concernait le choix du métier. Il y avait un certain nombre de métiers qui étaient interdits aux chrétiens. C'est Tertullien qui nous dit ça déjà en 197. Le gros problème pour les chrétiens, c'était justement le problème des loisirs. Nous l'avons vu tout à l'heure. Le monde romain était centré sur deux réalités. Nous connaissons bien Panem et Circenses, du pain et des jeux. Et les spectacles, les fêtes étaient monnaie courante dans le monde romain. Nous l'avons vu tout à l'heure. Pour les raisons que nous avons évoquées, les chrétiens ne participaient pas à ces choses. Il y avait à Carthage, à la fin du siècle, la ville où Tertullien était évêque, il y avait justement une controverse assez importante pour savoir si oui ou non les chrétiens pouvaient participer au sport, pouvaient faire du sport. Pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, un certain nombre de chrétiens disaient interdit aux chrétiens de faire du sport, de pratiquer le moindre sport. Et puis il y avait ceux qui disaient, à condition que ce ne soit pas dans la nudité complète, à condition que ce ne soit pas sous le patronage d'idoles, eh bien, si c'est simplement pour s'entretenir physiquement, pourquoi les chrétiens ne pratiquent pas un peu de sport, tout simplement pour se maintenir en forme? Finalement, on en était arrivé à ce compromis-là, qui était évidemment tout à fait biblique et tout à fait sage. Et c'est alors que naît ce qu'on appelle l'Église des catacombes. L'Église des catacombes, alors là, il ne faut pas non plus tomber un petit peu dans l'imagerie d'Épinal. L'Église d'Épinal qui a été, popularisé par des romans à succès tels qu'Obadis, où on voit les chrétiens, en quelque sorte, se rassembler dans les catacombes pour célébrer leur culte, etc. Bon, je crois que ça, c'est de la légende. Les catacombes, c'était, surtout à Rome, n'est-ce pas, où, effectivement, le siège impérial, il y avait peut-être plus qu'ailleurs un certain nombre de persécutions, plus souvent que dans d'autres endroits, les catacombes étaient tout simplement des cimetières. C'était le cimetière de Rome, où on enterrait à peu près tout le monde, et qui était considéré, étant donné le caractère superstitieux qui était celui des Romains, notamment vis-à-vis de tout ce qui touche la mort, qui était considéré comme un endroit sacré. Et la police impériale n'était pas tellement courageuse et téméraire pour s'enfoncer dans le dédale des tombes, etc. Si bien que si un criminel parvenait à se cacher dans une catacombe, il avait forte chance de rester là impuni. Et on comprend très vite que les chrétiens, au moment des persécutions, étaient éprouvés le besoin de venir se réfugier dans ces cimetières, de façon à être à l'abri des poursuites qui étaient celles du pouvoir. Il faut dire que les catacombes, à cette époque-là, étaient devenues des véritables labyrinthes, souterrains, souvent mal éclairés, mal odorants, etc. Maintenant, bien entendu, ces mêmes chrétiens, au moment des persécutions, enterraient eux-mêmes leurs morts dans ces endroits-là. Mais ils n'y avaient pas, contrairement à ce qu'on lit par exemple dans Covadis ou dans d'autres romans à succès du même type, il n'y avait pas de réunion, de culte, organisée, structurée dans les catacombes. Les catacombes n'étaient que des endroits de refuge. Alors que, éventuellement, quelques chrétiens spontanément, dans un moment difficile, se soient réunis à quelques-uns pour prier, pour demander au Seigneur une intervention de grâce spéciale, ça c'est sûr, mais il n'y avait pas de culte officiel dans les catacombes. Les cultes officiels, les réunions officielles, se tenaient dans des lieux spécialement faits de cet effet, soit au départ des maisons particulières de gens aisés, qui mettaient à leur disposition leur maison, d'où justement cette fameuse doctrine curieuse qu'on trouve aujourd'hui dans certains milieux des églises de maison. Mais en fait, c'était tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre lieu. On n'avait pas la possibilité à ce moment-là de construire des édifices de culte entièrement consacrés à cette fin. Et par conséquent, à leurs frais, des chrétiens aisés construisaient dans leur maison une grande salle dans laquelle qu'ils mettaient à la disposition de l'œuvre de Dieu pour y tenir des cultes. Mais assez vite tout de même, on s'est mis à construire des lieux spécialement prévus pour les cultes. Et dès le IIe siècle, apparaissent des basiliques, basiliques entre guillemets. C'était ainsi qu'on appelait les endroits pour les cultes. La basilique était un édifice païen au départ, ce qui n'était pas d'ailleurs forcément dans le monde romain à un caractère religieux. C'était plutôt un endroit où l'on avait lieu des procès, des choses comme ça, enfin, un lieu en tribunal, si vous voulez. Et les chrétiens ont repris le nom, en quelque sorte, pour désigner leur lieu de culte, qui au départ était des lieux extrêmement simples, simplement rectangulaires, une salle rectangulaire avec un baptistère. Et c'est très intéressant de voir qu'à cette époque-là, on trouve des baptistères qui sont à double escalier. Il y a trois marches de chaque côté du baptistère. Et là, il y a aussi un symbole, et ça dans les écrits de l'époque, le néophyte, n'est-ce pas, après avoir confessé ses péchés, après avoir fait profession de foi et déclaré qu'il renonçait au monde, descendait dans l'eau du baptême par un côté du baptistère, et il sortait de l'autre côté, dans l'autre sortie, n'est-ce pas, pour manifester que maintenant, eh bien, c'était quelque chose de nouveau et commençait une vie nouvelle. Et puis il y avait trois marches, toujours dans les baptistères. Pourquoi ? Parce que ça représentait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons que d'ailleurs, le baptême à cette époque-là était pratiqué par une triple aspersion. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, on plongeait le néophyte trois fois dans l'eau. Donc, on voit que le baptême des adultes a été, au IIe siècle, vraiment le baptême qui était le plus couramment utilisé. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit aussi à cette période-là, dans ce contexte de persécution dans l'Église des catacombes, comme on l'appelle un peu improprement, et j'ai expliqué pourquoi, on a vu apparaître les premiers germes de la déviations ultérieures qui vont marquer l'Église catholique. Et on peut le comprendre. Nous avons vu par exemple que même dans la lettre ici, la lettre d'Irénée, il y a une espèce de une glorification du martyr. Blandine qui va au martyr comme une reine qui va. Ça correspondait sûrement à quelque chose de profondément vécu, et on sent bien au travers de cette lettre, par exemple, que les martyrs connaissaient vraiment une grâce spéciale, une grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Ce qui faisait pratiquement. Ils étaient dans une telle communion avec le Seigneur dans ces moments-là, que c'est à peine s'ils ressentaient les souffrances auxquelles ils étaient soumis. Parce qu'un être humain, sans une grâce spéciale de Dieu, n'aurait pas pu supporter ce que ces gens-là ont souffert. C'est finalement ce que nous dit ici cette lettre. Mais, bien entendu, les martyrs étaient considérés comme des... considérés comme une mère, comme une reine, etc. Et alors, très vite, vous comprenez qu'on est arrivé au culte des martyrs. Les gens qui avaient manifesté une grande consécration, un grand courage dans... ces souffrances, n'est-ce pas, étaient considérées comme des chrétiens auxquels d'abord une grâce spéciale avait été faite. On considérait que c'était une grâce, finalement, de mourir martyr. C'est assez biblique, d'ailleurs, à ce moment-là. Et puis alors, parce qu'on considérait que c'était une grâce, un certain nombre de gens se sont mis à la rechercher. Et il y a eu une espèce de mystique du martyr qui est née dans les grands moments de persécution, où un certain nombre de chrétiens sont allés volontairement au-devant du martyr, certains, jusqu'à faire des gestes de provocation pour pouvoir subir le martyr. Ils souhaitaient, ils désiraient le martyr. Et là, je crois qu'on n'est plus dans le courant biblique. Si on ne peut pas faire... Jésus dit au contraire de fuir, n'est-ce pas ? Quand on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Donc le chrétien n'a pas à rechercher le martyr. Si coincé, n'est-ce pas ? Il ne peut plus s'enfuir, il n'a plus d'autre solution que de renier le Seigneur, à ce moment-là, bon, il accepte le martyr. Mais il n'a pas à rechercher le martyr. Ça. Or, précisément, on avait tellement mis, à cette période-là, l'accent sur la dignité du martyr, sur la grâce du martyr, etc., qu'un certain nombre de gens se sont mis à rechercher le martyr. Par exemple, dans le courant du IIe siècle, nous aurons l'occasion de revenir sur le mouvement montaniste, qui parle d'autres aspects très très intéressants, mais Montanus, par exemple, disait que c'était un crime que de fuir la persécution, qu'il fallait au contraire rester sur place, contrairement à ce que Jésus avait dit, et subir le martyr, n'est-ce pas ? Et non seulement on ne fuyait pas le martyr, mais on le recherchait. Et ceux qui avaient été ainsi mis au bénéfice de la grâce du martyr étaient considérés comme des chrétiens d'une essence supérieure aux autres. Et c'est l'apparition de la notion catholique de la sainteté, les saints, la différence entre les saints et puis ceux qui ne le sont pas. Et dans les catacombes, dès le IIe siècle, par exemple, dans les tombes où ont été enterrés des martyrs, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas des martyrs qui sont enterrés dans les catacombes. Pas Il y a beaucoup de gens qui sont morts tout simplement dans leur lit, mais qui étaient des chrétiens. Et on trouve par exemple sur les tombes, bien entendu, des inscriptions à la gloire du Seigneur. Telle personne qui est ici repose en paix jusqu'à la résurrection, par exemple, des choses comme ça. Bon, rien à dire en cela. Et puis alors, ensuite, on trouve alors pour ce petit nombre, d'ailleurs, n'est-ce pas, en proportion, qui ont été martyrisés, qui sont enterrés aussi dans les catacombes, on trouve des mentions de plus en plus dithyrambiques, finalement. Jusqu'au moment où ce sont pratiquement des espèces d'êtres qui, par leur martyr, ont été quasi divinisés. C'est une espèce d'apothéose, finalement, que le martyr, dans la pensée des gens du 2e et du 3e siècle. Et avec, justement, cette espèce d'auréole que l'on met autour des martyrs, apparaît aussi la première iconographie chrétienne. C'est dans les catacombes qu'apparaissent les premières représentations d'un certain nombre de réalités que la parole de Dieu, par ailleurs, interdit de représenter. Au début, vous savez, les graffitis chrétiens dans les catacombes sont très simples, c'est le poisson. Pourquoi ? Parce que c'est une espèce de signe de ralliement des chrétiens. Ictus, n'est-ce pas ? En grec, c'est le signe d'une phrase qui dit aussi « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur », n'est-ce pas ? Donc, on représentait tout simplement le poisson sur la tombe d'un défunt pour savoir que c'était un chrétien. Selon les chrétiens, ils étaient capables de reconnaître ça, bien sûr. Et puis ensuite, on va représenter tout simplement le Christ. On commence à représenter le Christ. Et souvent, l'image la plus prisée dans les catacombes, c'est l'image du Christ sous la forme du bon pasteur qui conduit ses brebis dans de verts pâturages. On ne comprend plus quoi, forcément. Ces gens qui persécutaient, étaient conscients que finalement, dans la mort, ils avaient trouvé le repos auprès du Seigneur, dans les bras de leurs bergers. Mais finalement, cette iconographie se développe, puis ensuite va devenir de plus en plus élaborée, de plus en plus sophistiquée. On va trouver ensuite des fresques, alors des véritables fresques artistiques, qui représentent cette image du bon pasteur qui revient pratiquement toujours dans les catacombes, mais par exemple sous la forme de ce héros grec, n'est-ce pas, qui est un dieu qui avait un culte très élaboré à cette époque-là, Orphée. Orphée, qui était un musicien particulièrement talentueux, qui charmait les animaux. Souvent, dans les tombes païennes, n'est-ce pas, on a des fresques qui représentent Orphée, entouré des animaux, en train de jouer de la flûte de Pan. Et bien, on retrouve, par exemple, dans les catacombes, à la fin surtout au IIIe siècle, en fait, on retrouve le Christ sous les traits d'Orphée, en train de jouer de la flûte avec des animaux autour de lui, exactement comme Orphée. Donc il y a une espèce de syncrétisme, il y a une espèce d'osmose qui se fait entre la pensée païenne, finalement, et puis le christianisme, n'est-ce pas ? Le christianisme qui, très tôt, n'a pas su résister à ces germes de décomposition qu'il y avait en son sein, alors même que ces martyrs écrivaient dans l'histoire de l'Église une page inégalée de gloire. Cela, forcément, aller très loin pour retrouver des cas comme celui que nous venons de lire ici dans la lettre que nous avons évoquée ici. Donc, si vous voulez, voilà en gros comment se présente la situation des persécutés et des persécutions à l'époque de l'Église du IIe siècle. Et là, forcément, cette persécution n'a pas que des effets bénéfiques. Cette persécution va aussi avoir des effets sur la doctrine, je crois que nous avons commencé à le voir, mais également il va y avoir, dans ce deuxième siècle, glorieux par bien des aspects, et je crois que là, peut-être que dans l'admiration vis-à-vis de ces chrétiens qui ont su aussi témoigner de leur foi à ce niveau-là, après, il ne faut pas non plus nous laisser inverse pour des gens comme Landine ou Cotin ou Santus, etc. Il y en avait quand même des centaines et des centaines qui apostasiaient, il ne faut pas non plus se leurrer, penser que tous étaient des héros de cette manière-là. Mais à côté de cela, il y avait aussi les hérésies qui ont été la clé de l'Église du IIe siècle. Et ça, nous verrons la prochaine fois. Voilà, est-ce que vous avez une ou deux questions à poser ? Alors il y avait au IIe siècle le problème des relapses, c'est-à-dire de ceux qui avaient failli devant le martyr. C'est très vite devenu un problème dans les IIe siècle. Ceux qui avaient apostasié, par exemple, devant à crainte des tourments et des tortures, et puis qui ensuite voulaient revenir dans l'Église quand la persécution était passée. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous voyez le problème? Est-ce qu'on devait pardonner à ces gens-là, les réintégrer dans l'Église? Ou bien est-ce que, en quelque sorte, ils avaient connu un... Qu'est-ce que c'est? Première chose, je lui dirais, pas téléphoner, par contre. Si vous voulez, est-ce qu'on doit les accepter ou pas, ces gens-là? Alors, les avis étaient très partagés avec l'Église primitive. Vous voyez, ceux qui avaient enduré des tourments, qui avaient été en prison, etc., disaient, ben, ces gens-là, c'est facile. Quand ça va mal, hop, on se retire, et puis quand ensuite la persécution est passée, on revient. Ben, c'est pas normal, disaient ceux qui avaient subi les tourments. Et puis il y avait ceux qui disaient, enfin, il y a le pardon de Dieu, il y a mis au cœur de Dieu. Et c'est alors qu'est intervenue aussi une autre erreur catholique. C'est le problème de la pénitence. Alors, après de très très longues discussions, il y a eu des schismes qui sont nés à partir de cette question des relapses. Eh bien, on est arrivé à la conclusion, au IIIe siècle en particulier, que les relapses devaient être réintégrés dans l'Église après qu'on leur ait imposé des pénitences, c'est-à-dire des épreuves difficiles qui les ramenaient, si vous voulez, au niveau des martyrs. Quoi. Pas vraiment, on n'allait pas jusque-là, mais enfin, on leur faisait subir des épreuves. Et on trouve ça dans la mentalité catholique de la pénitence aujourd'hui, vous savez, les pèlerinages, les rosaires et tout ça pour expier les péchés. Finalement, ça, l'idée de l'expiation des péchés par les œuvres naît aussi, finalement, de ce problème des martyrs. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Vous avez dit qu'il y avait deux courants d'opposition, les élites.
Les quoi?
Les élites.
Pas les élites, les élites. Oui, d'accord. Et puis ben, le petit peuple.
Et les sources principales,
c'était
ce que vous disiez.
Les œuvres de Césarée, les écrits tels que le pasteur Damas, la Didaquée, les oreilles du Pénantie.